Avant de commencer, je voudrais vous signaler que la semaine prochaine, le jeudi 26 novembre à 17h, aura lieu une conférence d'un professeur de l'école d'architecture de Grenade, en Espagne, que j'ai invité à venir parler de Le Corbusier. Il prononcera deux conférences, la première donc ce jeudi 26 novembre à 17h et la seconde le vendredi 4 décembre à 14h30. Ce sont deux conférences que je pense pouvoir chaudement vous recommander d'un grand spécialiste de Le Corbusier. Alors, je reprends au sujet d'Alberti, dont je voudrais donner en fait les grandes lignes de sa conception de l'histoire de l'architecture, qui n'a pas de dimension véritablement historique, même s'il rappelle des faits, des développements qu'il projette sur le passé. Mais l'histoire dans laquelle il puise est entièrement au service de la construction de sa théorie. En fait, il fait de l'histoire un instrument, un support du développement théorique. Alors, l'architecture, dit Alberti, je résume, dans son traité De Aedificatoria, l'architecture est née du besoin à l'époque préhistorique. Donc, c'est l'idée selon laquelle, qui va d'ailleurs dominer une grande partie de la théorie architecturale jusqu'au XVIIIe siècle, ou même jusqu'au XIXe, l'architecture naît du besoin à l'époque préhistorique, du besoin de s'abriter, du besoin de se protéger. Puis, en Asie, elle devient un art somptueux, somptuaire, devenue l'architecture des palais. Transposée en Grèce, l'architecture est métamorphosée par la grâce et atteint sa véritable grandeur, le dit Alberti. Et au fur et à mesure des essais successifs qu'elle connaît, les hommes recherchent les meilleures proportions et les Grecs inventent les différents ordres. Enfin, les Romains empruntent cette tradition architecturale aux Grecs et allient les ordres avec la fonctionnalité que réclamaient leurs édifices. Ce qui fait qu'avec les Romains, on atteint, selon Alberti, le sommet de l'architecture. Il y a là un schéma organique, il faut le rappeler, ça a été dit, genèse, croissance, maturité. Alors, bien sûr, Alberti ne nous parle pas de l'avenir de l'architecture à partir des Romains. Il nous dit simplement qu'il y a là un sommet, que ce sommet, au fond, est le modèle, le paradigme architectural à partir duquel les hommes d'aujourd'hui, ses contemporains, devraient concevoir leurs propres édifices. Mais ce n'est pas quelque chose de très facile d'imiter les anciens. Le but, selon Alberti, de l'architecture qui lui est contemporaine, donc son propre but à lui aussi, est de retrouver les lois de l'universa pulchritudo, c'est-à-dire de cette beauté universelle, en partant non pas des textes, puisque les textes, nous ne les conservons pas, les textes théoriques des anciens, nous ne les conservons pas, mais en partant des œuvres d'art elles-mêmes, en particulier des formes que prennent les différents éléments constitutifs, les ordres, les détails de l'architecture, etc. Alors, ce qu'il convient de bien retenir, c'est que pour Alberti, le passé antique est quelque chose de clos. C'est-à-dire qu'il y a eu un début qu'il a essayé de reconstituer, il y a une fin, et nous connaissons par conséquent un développement complet, avec une distance historique suffisante pour l'analyser dans tous ses détails. Cette conception d'un passé antique clos sera également celle de Ghiberti, dont j'aurai l'occasion de parler à propos de son commentaire, du commentaire numéro 1. Alors, ce qui il convient peut-être de de faire, c'est de, d'essayer de revenir rapidement à cette antiquité que Alberti pense en quelque sorte ausculter à partir des monuments qui subsistent, et notamment dans la description topographique de Rome qu'il a conçue en 1432-34. Et ce texte est pour nous d'un intérêt considérable parce qu'il est la trace d'une entreprise tout à fait originale de la part d'Alberti, qui a effectivement conçu un relevé topographique de la ville de Rome, mais malheureusement, nous ne connaissons absolument pas les données techniques de cette grande entreprise. Alors voici ce texte, enfin un extrait de ce texte, de la description de Rome. Le tracé des contours des murailles de la ville de Rome, du fleuve, des voies, l'emplacement et la disposition des temples, des édifices publics, des portes et des trophées, des limites des collines, et même la superficie couverte par les toits des habitations, tout cela, tel que nous le connaissons de nos jours, je l'ai relevé avec le plus grand soin possible à l'aide d'instruments mathématiques. Bon, évidemment, pour nous, c'est tout à fait vague. J'ai imaginé ces instruments grâce auxquels n'importe qui, même doué de peu de talent, pourra dessiner fort joliment et fort commodément un plan aussi grand qu'il le veut. Des amis lettrés, dont je pensais qu'il fallait aider les études, m'ont amené à le faire. Voici ce que j'ai pu recueillir de tout cela. Aucun vestige des anciennes murailles n'apparaît nulle part. Il y a également très peu de voies intactes. Aucune porte n'est distante du centre de la ville, c'est-à-dire du Capitole, de plus de 146 coudées, et le pourtour des murailles reconstruites n'excède pas 75 stades. Les dimensions des différents éléments et le dessin lui-même feront apparaître tout cela, dessin que nous n'avons pas. Alors, je voudrais quand même préciser que pour ce qui est des relevés topographiques, nous avons quand même des informations, non pas, encore une fois, sur les instruments que Alberti a élaborés, mais sur une période bien plus ancienne, lorsque, début du XIIIe siècle, Villard de Honnecourt, dans son célèbre album conservé à la Bibliothèque nationale de France, dessine, par exemple, un personnage agenouillé, enfin un genou en terre, et regardant à partir d'un élément vertical, donc qui est fixé par le fil à plomb, et il regarde à partir du sommet de cet élément vertical vers un édifice. Et donc il établit en quelque sorte un angle de vision à partir duquel l'édifice est vu sur toute sa hauteur. Voilà un type d'instrument élémentaire que nous connaissons par une documentation bien plus ancienne que celle d'Alberti. Donc on peut imaginer que c'est à partir de tels instruments et de telles procédures qu'il a pu faire sans doute se relever, mais ce serait évidemment passionnant de le retrouver. Sans doute n'existe-t-il plus. Alors, je prolonge un petit peu très intéressante opération menée par Alberti, sans doute avec quelques aides, parce que cela nous montre un intérêt, bien sûr historique pour le passé antique, mais un intérêt topographique. C'est-à-dire que la topographie d'une ville est en quelque sorte révélatrice de son histoire. Quand il nous donne ces différents détails sur les murailles, sur l'éloignement des portes, etc., il indique bien que dans la composition urbaine, dans le tracé urbain tel qu'il subsiste à l'époque d'Alberti, nous avons des éléments extrêmement précieux pour plonger, en quelque sorte, dans les modes de vie des anciens. Un contemporain de Alberti, Flavio Biondo, avait lui aussi accordé une grande importance à la recherche archéologique déjà. Donc nous sommes au tournant du XIIIe et de, excusez-moi, au tournant du XIVe et du XVe siècle. Il introduit une véritable nouveauté dans l'historiographie. Biondo, qui est aussi antiquaire, lie en particulier la recherche archéologique à la rhétorique. Il élabore même une critique de la périodisation médiévale en introduisant non plus deux, mais trois phases, qui va être reprise ensuite par d'autres historiens. Je n'entre pas ici dans les détails, ça nous entraînerait trop loin. Biondo est aussi l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle De Roma Triumphante, 1473-75, qui a servi de modèle à toutes les représentations du monde antique qui ont suivi. Il a en particulier considéré comme très important d'opérer une sorte de classement, de typologie des édifices antiques, romains, en les divisant en antiquités publiques, privées, sacrées et militaires. Les monuments sont par conséquent rangés selon leur fonction sociale et représentative dans la ville de Rome, et ils amorcent, ils esquissent quelque chose qu'on pourrait déjà appeler une sorte d'iconologie architecturale, c'est-à-dire de mettre en lien étroit la forme de l'architecture avec sa fonction. Donc les œuvres d'art antique, aussi bien par Biondo que par Alberti, sont considérées comme des documents visuels au service de l'histoire de la culture. C'est évidemment un élément très important pour deux raisons. D'abord parce que cela va entraîner un tout nouveau type de regard sur le passé et sur les œuvres d'art du passé, mais aussi parce que cela va permettre peu à peu une sorte d'herméneutique nouvelle par rapport à ce qu'est le texte de Vitruve, le fameux traité d'architecture des 10 livres de Vitruve, qui va être examiné, interprété peu à peu, en confrontant le texte de Vitruve avec les monuments eux-mêmes. Alors, les repérages topographiques dans la ville sont par conséquent inséparables de l'écriture de son histoire. C'est une toute nouvelle conception du temps et de l'espace, des liens qui unissent le temps et l'espace. Donc une histoire qui est en quelque sorte spatialisée, mise en lien, avec, en relation avec la disposition même de la ville. Alors, deux, trois générations plus tard, il y aura des guides de Rome, ceux qui seront destinés aux visiteurs de Rome, et il est très intéressant de signaler que des imprimeurs allemands vont s'installer dans la ville très tôt, au XVe siècle, pour imprimer, même en langue allemande, des guides de la ville de Rome, ce qui explique aussi l'attrait que les Allemands ont toujours subi vis-à-vis de l'Italie, en particulier de Rome. Alors, ce n'est pas la seule explication, mais c'en est une tout de même très intéressante, c'est que déjà, les guides dans la langue vernaculaire des visiteurs allemands leur permettaient évidemment d'avoir accès beaucoup plus immédiatement au trésor de la ville. Et puis, il y a un autre type de guide qui est le guide imprimé destiné aux pèlerins. Il y a une autre ville qui est également l'objet d'une telle description topographique, production de véritables guides, c'est Florence, avec l'ouvrage d'un chanoine de San Lorenzo de Florence, qui s'appelait Francesco Albertini, et qui en 1510 publie un ouvrage de topographie artistique sur Florence. Alors, ce que je voudrais encore dire à propos de Alberti, avant de venir à un passage important de son traité sur l'architecture, c'est à quel point chez lui la conception de l'histoire, le regard rétrospectif qu'il porte sur l'Antiquité, l'histoire se trouve au fond instrumentalisée. Elle ne l'intéresse pas pour elle-même. L'histoire est en fait l'objet d'un récit où la mise en ordre des faits et des objets n'est pas déterminante, mais c'est plutôt la mise en perspective d'une trame intellectuelle qui est, elle, la théorie de l'art. L'histoire est pour Alberti la confirmation de son programme théorique, de sa pensée, et l'architecture des anciens, au fond, par exemple, l'intéresse parce qu'il peut en déduire des bases théoriques. Donc il y a quelque chose de une place très importante faite au raisonnement inductif chez Alberti. Je voudrais encore mentionner, mais en le rattachant à Alberti pour des raisons que vous allez comprendre très vite, évoquer une autre grande figure d'un historien qui, pour la façon dont je voudrais poursuivre ma réflexion dans ce cours, a joué un rôle complémentaire d'Alberti. On peut constater, en lisant Alberti, que ce soit son traité sur la peinture, sur la sculpture ou sur l'architecture, qu'il y a très peu de références à des œuvres contemporaines. Il n'y a pratiquement pas de références à des œuvres contemporaines. Et ce qui fait également défaut, ce sont les descriptions. Il n'y a pas d'attention, sauf un cas exceptionnel, il n'y a pas d'attention de la part d'Alberti pour la description des œuvres, l'effort descriptif. La seule exception, c'est la Navicella de Giotto, à laquelle il consacre quelques lignes. Et c'est quelque chose qu'il convient de remarquer. La description d'une œuvre d'art, je vous l'ai déjà dit, à cette époque, est complètement structurée par la connaissance des topoi anciens, de la rhétorique, la tradition rhétorique, et en particulier de l'ekphrasis. Donc il y a une façon, une certaine façon d'aborder la description de l'œuvre d'art, qui est le propre aussi bien d'un Pétrarque, d'un Villani, que d'autres auteurs contemporains. Et on peut dire qu'il y a au fond deux types de descriptions qui dominent au XVe siècle. Une description comme celle qu'a faite Bartolomeo Fazio, mais je n'entre pas dans les détails, qui est une description que l'on pourrait appeler soucieuse de prendre en compte la singularité de l'œuvre qu'il a devant les yeux, donc soucieuse de ne pas se contenter des codifications de l'ekphrasis. Et puis il y a un deuxième type de description qui est une description qualitative sur tel ou tel peintre. En fait, on donne une appréciation de la valeur du peintre à propos de la description d'une œuvre, à propos de l'évocation, parfois ce n'est qu'une évocation relativement brève, d'une œuvre. Mais je voudrais m'intéresser à quelqu'un qui était très proche d'Alberti, qui s'appelle Cristoforo Landino. Landino n'a pas écrit de livre sur la peinture, mais il a écrit un commentaire sur la comédie, la Divine Comédie de Dante, en 1481. Et dans l'introduction de ce commentaire sur Dante, Landino montre qu'il s'est intéressé à la peinture et qu'il connaît de très près les idées d'Alberti. On pourrait même considérer que dans cette introduction, il y a une forme d'appendice pratique au traité sur la peinture d'Alberti, qui s'inspire de la pensée d'Alberti, dont Landino, je le répète, était un ami. Alors, il faut bien savoir que Landino a une connaissance très étroite de la littérature antique, en particulier de Pline, puisqu'il est lui-même le traducteur de l'histoire naturelle de Pline, imprimée en 1473. Et je signale que dans l'histoire naturelle, les livres 34 à 36 sont les exemples les plus remarquables d'une véritable critique d'art antique. C'est vraiment ce qu'on possède de plus complet, de plus riche aussi du point de vue philologique. Pline a utilisé des termes, bien sûr en latin, dont Landino cherche des équivalents en italien, en langue vulgaire, et il recueille tout un ensemble de termes extrêmement précis dans la langue de Pline, dont on comprend bien en lisant Pline ce qu'il signifie. Il y a peu d'ambiguïté, même si certains termes sont repris parfois pour des situations tout à fait différentes, mais en gros, on comprend bien le sens des mots latins utilisés par Pline, comme, constantia, elegantia, dispositione, etc. Et au fond, ce que fait Landino, et il est le premier à le faire, il adopte et adapte tout un vocabulaire qui peut servir à une description beaucoup plus fine et qui dépasse complètement le cadre de l'ekphrasis traditionnel. Et là où Landino est un personnage intéressant, curieux, déroutant, c'est que ces termes qu'il a empruntés à Pline, qu'il a traduits, par conséquent, en italien, lorsqu'il parle des peintres florentins, il n'emploie pas ces mots. C'est comme si ces termes étaient restés figés dans une perspective strictement philologique et historique et pas du tout appliqués, testés, je dirais, en faisant l'expérience visuelle des œuvres d'art plus récentes, modernes, que Landino avait sous les yeux. Voilà, ça c'est quelque chose d'important parce que, encore une fois, là, nous ne quittons pas Alberti en fait en parlant de Landino. Il était très proche de lui. Les idées essentielles qu'il développe viennent sans doute d'Alberti. Et Alberti avait certainement aussi une connaissance très étroite, évidemment, de cette terminologie, puisqu'il connaissait parfaitement Pline. Et il devait aussi savoir combien ces termes auraient pu devenir de véritables. Des germes d'une langue descriptive, d'une langue analytique propre à l'art. Alors, j'en viens maintenant à un dernier aspect de Alberti. J'en ai parlé à plusieurs reprises déjà dans ce cours et la dernière fois, à savoir l'architecte, le grand architecte qu'il était, et le grand théoricien de l'architecture qu'il a été. Alors, je vous lirai dans un instant un extrait du livre 6, chapitre 3 du traité de Re Aedificatoria. Mais auparavant, je voudrais dire ceci. Il y a, chaque fois que l'on aborde la lecture d'Alberti, l'extraordinaire sentiment qu'il dépasse toujours le propos théorique utilisable par les architectes ou par les peintres ou par les sculpteurs, par une réflexion plus générale, par une philosophie beaucoup plus vaste, et qu'au fond, on est amené à se dire que cette pensée théorique qui progresse d'un domaine à l'autre, mais qui s'intéresse aussi, comme je vous l'ai dit, aussi bien à la grammaire ou à la famille, à la société et cette structure essentielle dans la société florentine, aux yeux d'Alberti, qu'est la famille du marchand, eh bien, tout cela l'amène peu à peu à construire une véritable vision du monde. En particulier, je signale ceci, il dit dans ce traité quelque chose sur l'origine des sociétés humaines. C'est un thème qui va être très souvent repris par les théoriciens, par les philosophes. Je citerai le plus célèbre, est évidemment Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Comment les sociétés primitives sont-elles nées? Comment les hommes se sont-ils réunis, unis ou opposés? Et à propos de quoi? Et il dit quelque chose comme ceci, je ne donne pas la citation exacte ici, mais il dit quelque chose comme « Les sociétés primitives, donc l'origine de la société humaine, n'est pas à chercher autour du feu et de l'eau, qui sont en fait deux éléments absolument nécessaires et combien nécessaires au développement des sociétés humaines, mais les sociétés primitives se sont formées grâce aux murs, la construction des murs, l'élévation des murs et le percement des portes et des fenêtres. Autrement dit, les sociétés humaines ont pris la forme qu'elles ont encore aujourd'hui à partir du moment où elles ont mis en place des limites pour les opposer, les séparer ou pour les réunir. Puisque le mur est à la fois l'enclos d'une ville, mais il est aussi, évidemment, la limite d'une maison, et que dans le mur, il y a toute une, il y a toute une fonction symbolique que Alberti met bien en évidence. C'est à la fois une très belle idée, et c'est en même temps pas seulement une idée qui vient nous introduire à un traité sur l'architecture, bien évidemment, mais c'est aussi une idée qui, je dirais, sur le plan philosophique, est tout à fait passionnante, parce qu'elle montre ici, à la différence de la thèse de la société primitive qui naît à partir du feu et de tous les progrès qui ont été possibles ensuite à partir de l'invention du feu, il nous dit, mais il y a peut-être beaucoup plus important, c'est que les hommes ont pu à un moment donné se diviser, se regrouper, se protéger grâce au mur. Donc c'est un récit fondateur, on pourra presque dire une sorte de mythographie, qui met en avant la fonction de l'architecture, le rôle profond de l'architecture dans l'histoire des sociétés humaines. Alors voici cet extrait du livre 6. Aussi loin que nous examinons les livres des anciens, l'architecture a répandu les premières richesses de sa jeunesse en Asie. Peu après, elle fleurit chez les Grecs. Elle atteint finalement sa pleine maturité chez les Romains. La vérité, telle qu'elle m'apparaît, c'est que les rois d'Asie, vivant dans l'opulence et le loisir, lorsqu'ils considéraient et réfléchissaient sur leur puissance et leur pouvoir, voyaient la nécessité de plus vastes abris et d'habitations plus dignes, et commencèrent à réunir tout ce qui pouvait servir à cette fin. Alors, peut-être, afin de rendre leurs palais aussi vastes et splendides que possible, ils employèrent d'immenses troncs d'arbres pour leur toiture et se mirent à élever des murs à l'aide de matériaux plus précieux. Nous avons bien ici l'idée que l'architecture est à la fois née du bois, donc d'un matériau naturel, le modèle de la nature, le modèle de l'arbre pour l'architecture est quelque chose d'absolument fondamental dans toute la tradition depuis Vitruve, mais en même temps de matériaux plus précieux. Donc comment le raffinement s'ajoute à l'utilisation du matériau naturel. Leur construction sont devenues impressionnantes et élégantes. Ils ont peut-être remarqué à cette occasion que de grands édifices suscitaient l'admiration. Aussi ont-ils peut-être pensé qu'il revenait au prince de bâtir ce qui était hors de portée d'un citoyen quelconque. Ainsi, ils commencèrent à aider les constructions immenses et les constructions immenses et le goût de la rivalité entre les rois les poussa bientôt à la folle construction de pyramides. Je crois que l'expérience de l'architecture leur donna l'opportunité de distinguer les grandes différences visibles dans les nombres, l'ordonnance, l'arrangement et l'aspect extérieur de leur construction et de les comparer entre eux. Ainsi, a-t-on pris plaisir à la beauté et a-t-on appris à dédaigner ce qui avait moins de sens ? Une remarque ici sur deux points, la question de la rivalité entre les souverains qui va pousser à une sorte de surenchère du luxe architectural, de l'ambition architecturale des souverains. La rivalité explique le développement de l'architecture aussi bien dans l'Antiquité qu'au Moyen-Âge. Les grandes cathédrales sont évidemment le résultat de la rivalité entre les grands archevêques et les grands évêques. Et puis, ces différences visibles dans les nombres, l'ordonnance et l'arrangement. Comment il y a ici l'insistance sur la géométrie, les mathématiques et l'équilibre des masses et des ordonnances. Puis vint la Grèce, où vivait un grand nombre d'esprits nobles et de grands mérites, dont le désir d'embellissement était grand, et par-dessus tout, ils accordèrent une grande attention à la construction des temples. Puis ils se mirent à examiner les constructions des Assyriens et des Égyptiens, dont ils apprirent que dans telle matière, l'habileté de l'artiste était plus digne d'éloge que le luxe des rois. L'habileté de l'artiste était plus digne d'éloge que le luxe des rois. Il y a aussi, chez Alberti, constamment l'insistance sur le statut d'exception des artistes. C'est une des éléments théoriques qui a contribué aussi au changement du statut des artistes. Car réaliser quelque chose de grand est réservé à ceux qui sont favorisés par la chance, mais réaliser quelque chose que les hommes de l'art ne blâment point est le fait de ceux qui méritent les éloges. Autrement dit, le destin, la chance peut aider tel ou tel grand personnage, mais les hommes de l'art, eux, c'est par le savoir qui leur est propre qu'ils méritent des éloges. Donc c'est pour eux-mêmes, ce n'est pas pour ce qui leur arrive, mais pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font. C'est pourquoi les Grecs décidèrent qu'il leur revenait de surpasser en ingéniosité ceux avec la richesse desquels ils ne pouvaient pas rivaliser quoi qu'ils fissent. Comme pour les autres arts, ils se mirent à chercher l'architecture au sein de la nature et à l'élever à la lumière, à en débattre et à l'examiner avec soin, l'étudiant et la considérant d'une manière incisive et subtile, de façon à connaître les raisons pour lesquelles certaines architectures plaisent et d'autres pas. Alors cette idée de la nature, chercher l'architecture au sein de la nature et l'élever à la lumière, c'est-à-dire de trouver des modèles naturels qu'on peut ensuite mettre en évidence ou équilibrer par d'autres éléments qu'on prendra ailleurs, c'est une chose. Et puis, pourquoi les architectures plaisent et d'autres pas ? Eh bien, c'est cela qu'il faut analyser. Il faut chercher les raisons de la beauté, la logique interne à la beauté pour pouvoir la comprendre. Au cours de telles réflexions, poursuit Alberti, ils ne négligeaient rien. Ils firent toutes sortes d'expériences, suivant et retraçant les phases de la nature qui mêlent l'égal avec l'inégal, la ligne droite avec la ligne courbe, l'ombre avec la lumière. Et ils observèrent que tout comme l'union d'une femme et d'un homme naît un tiers, naît aussi ce qui les aiderait à achever leur projet initial. Je crois que je suis plus loin. Voilà. Et ils ne cessèrent de considérer les choses les plus simples dans le moindre détail. Si la droite convenait... Pardon, je l'ai déjà lu ça. Ils ôtaient, ajoutaient ou ajustaient le grand et le petit, le semblable et le différent, le commencement et la fin, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu les différentes qualités souhaitables afin qu'un édifice fût destiné à traverser le temps ou qu'il n'eût pas d'autre fin que de plaire. C'est ce qu'ils accomplirent. On a ici, dans ce paragraphe, à partir de « ils ne cessèrent de considérer les choses les plus simples dans le moindre détail, ils ajustaient, etc. », on a en même temps une définition de l'humaniste. L'humaniste est celui qui cherche à comprendre le langage de la nature, le langage de la culture. Il examine les choses dans le moindre détail pour en tirer chaque fois un enseignement. En raison de leur sens de l'économie congénitale, les Italiens considéraient leurs édifices comme des animaux. Prenez le cas d'un cheval. Ils réalisèrent que si la forme de chaque membre semble apte à telle tâche, alors l'animal tout entier serait apte à la remplir. Il faudrait faire ici un long développement sur cette idée qui est très importante, qui va avoir une fortune considérable jusqu'au XVIIIe siècle notamment, de considérer l'édifice architectural comme un animal. C'est-à-dire que son articulation, la disposition des parties, la fonctionnalité de chaque élément, donc rien de trop, et tout doit être là, mais jamais de trop, pour que l'édifice remplisse véritablement sa fonction. Donc cette analogie avec le corps, et le corps de l'animal en particulier, est quelque chose de tout à fait important. On retrouvera des idées semblables chez les théoriciens architecturaux du XVIIIe siècle qui ont en particulier essayé de définir l'importance de la voûte sur croisée d'ogive. J'ai évoqué ces questions dans un cours il y a quelques années déjà ici. Et ils constatèrent que l'agrément de la forme ne saurait être séparé ou détaché de l'aptitude à tel usage. C'est en effet la question de la convenance, de l'adéquation idéale entre la forme et la fonction. Mais lorsqu'il dominait le monde et qu'il s'enflammait tout autant que les Grecs pour embellir leur cité et leur propriété, la demeure qui, voilà 30 ans encore, était la plus belle, n'occupait même plus la 100e place. Il y avait une telle abondance de maîtres talentueux qu'à Rome, ainsi que je l'ai lu, vivait pas moins de 70 architectes dont nous ne saurions apprécier les œuvres selon leur mérite. En ce temps, lorsque la puissance de l'Empire avait atteint son sommet et suscité l'admiration de tous, un certain Tatius aurait fait don aux habitants d'Ostie d'un bâtiment de terme avec 100 colonnes en marbre de Numidie qu'il avait payé de sa poche. En dépit de cela, ils préféraient tempérer la splendeur de leurs souverains les plus puissants à l'aide de leur frugalité habituelle, de sorte que la parcimonie ne fût pas contraire à l'utilité, ni l'utilité sacrifiée à l'opulence, et qu'en toutes circonstances fût retenu tout ce qui pouvait être considéré comme luxe et beauté. On a ici ce sens admirable, vraiment classique, au sens le plus fort du mot, de ce qui convient et de ce qui ne convient pas, de ce qui plaît et de ce qui ne plaît pas, de ce qui convient aussi sur le plan de l'économie des peuples et ce qui, au contraire, constitue une sorte de trop d'opulence ou de luxe. En ne renonçant jamais au moment de construire ni à l'attention requise, ni aux soins minutieux, ils acquirent une vision si claire de l'architecture qu'il n'y avait rien qui eût pu rester obscur, caché ou abstrus, sans être ramené à la lumière avec l'aide des dieux et sans la moindre résistance de l'art lui-même. Nous avons là presque la définition d'une situation idéale où l'art naît de la réflexion, de l'analyse et qui devient ensuite d'une transparence, d'une clarté et qui est monté à la lumière. Nous retrouvons la métaphore employée par Pétrarque pour désigner le temps moderne. Alors, au fond, Alberti nous apparaît bien comme l'humaniste type, même à travers ce détail, ce texte essentiel, bien sûr, du traité, mais ce n'est quand même qu'un aspect de sa pensée. Il affirme, comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, la puissance de l'esprit. C'est l'esprit qui élabore des lois qui soient extérieures aux choses, mais qui partent des choses, en expliquant ainsi l'organisation des choses et leurs relations dans l'espace. Et toutes ces lois forment ensemble une théorie, mais forment ensemble aussi le regard que l'humaniste porte sur le monde. Les relations entre les choses sont modifiables. L'homme a pouvoir de les modifier par un immense effort conceptuel. Il s'agit donc de se faire une image du monde. Et on voit bien comment nous assistons à Florence à la genèse à la fois d'idéaux politiques, philosophiques, d'idéaux éthiques et esthétiques. Et Alberti, c'est l'humaniste même qui se consacre à l'exercice de la pensée et à son déploiement dans tous les champs du savoir, en tout cas dans un grand nombre de champs du savoir. Alors je voudrais maintenant m'arrêter, pour le temps qui me reste, à une autre personnalité tout à fait éminente, florentine, toscane. Il a même concentré toute son attention sur la Toscane. C'est Lorenzo Ghiberti. Lorenzo Ghiberti, que vous connaissez sans doute davantage comme sculpteur que comme penseur, comme auteur de réflexions, de commentaires, qui nous apporte un grand nombre d'éclairages sur ce qu'a été le regard porté par les hommes du XVe siècle sur les artistes et sur l'art. Alors d'abord, pour ce qui est de sa conception de l'ancien, de l'antique, il est, comme Pétrarque, absolument convaincu qu'il existe une véritable dichotomie entre l'Antiquité et la période moderne. Il est sans doute, en dehors de Alberti, auteur du traité de la famille, le théoricien qui a l'approche la plus rigoureuse de la question des anciens et des modernes. Je m'y arrêterai plus en détail. Il est convaincu, en particulier, que dans l'Antiquité, il existait une théorie de l'art, même une théorie extrêmement riche, et que cette théorie était intimement liée à la pratique. Donc, les deux choses seraient pour lui absolument indissociables. En cela, il est tout à fait dans la même ligne de pensée que Alberti. Il considère que le lecteur, pour comprendre ce qu'il écrit, doit connaître l'optique, le dessin, doit pratiquer les proportions et connaître l'anatomie humaine. Et par exemple, il a existé dans l'Antiquité un auteur, Polyclète, qui a écrit un traité des proportions idéales que l'on appelle le canon, le fameux canon de Polyclète, mais qui est perdu, ce texte est perdu. Néanmoins, l'analyse des œuvres d'art antique, de la sculpture, permet de reconstituer l'existence indiscutable de canon de proportion. En fait, ce que veut faire Ghiberti à travers ses commentaires, Commentari, hein, c'est le titre de ce texte, auquel je vais m'intéresser un moment, son but, c'est de proposer aux artistes non pas un enseignement pratique uniquement, ou même théorique, mais un enseignement humaniste, c'est-à-dire d'élargir l'horizon de façon à faire vraiment de l'artiste, lui aussi, un humaniste. Vous voyez comment on a beaucoup progressé depuis Villani. Villani parlait encore avec une certaine prudence des artistes en disant ceux qui me liront vont dire « Mon Dieu, il parle des artistes, mais est-ce que les artistes ont leur place dans un ouvrage qui récapitule les grandes figures illustres florentines ?» Ici, Ghiberti, artiste lui-même, il faut évidemment le souligner, ne prend pas les choses du tout de cette manière. Il se place à un niveau déjà beaucoup plus élevé et considère que l'artiste est, doit être un humaniste, lui aussi. Il y a aussi chez Ghiberti quelque chose de très différent par rapport à Alberti, c'est que nous avons réellement deux approches de la question qui nous préoccupe ici dans ce cours, à savoir la question de l'art. Il a à la fois une approche historique, dans laquelle il emploie une langue compréhensible, et en même temps, il a aussi un souci descriptif. Et on sent bien que Ghiberti a appris énormément de choses en fréquentant ses collègues artistes et en fréquentant les ateliers. Il y a un savoir empirique et un savoir théorique qui sont tous les deux nés au contact des artistes qu'il a fréquentés. Et l'autre point qui est extrêmement important dans sa vision de l'histoire, et là nous sommes devant quelque chose qui n'est pas qui est nouveau, enfin qui est vraiment une grande originalité de Ghiberti, c'est que Ghiberti parle des œuvres antiques et des œuvres modernes, donc des œuvres du Trecento ou du Quattrocento. Il parle des œuvres modernes et des œuvres antiques de la même façon. C'est-à-dire que pour lui, ces deux origines historiques des œuvres d'art aussi éloignées l'une de l'autre n'affectent en rien notre perception que nous pouvons en avoir. Il faut les considérer d'une manière absolument égale. Ce qui compte, c'est la présence de l'œuvre. C'est la présence d'une statue romaine à côté d'une peinture de Cavallini ou d'un Pisano. Donc, cette présence rend ces objets égaux du point de vue de l'expérience du regard, du point de vue de cette expérience véritablement, qui va au-delà d'ailleurs d'une expérience du regard, qui est vraiment une expérience ontologique de l'œuvre que l'on va être amené à faire. C'est une forme d'abolition des limites historiques qui est d'une extrême importance parce qu'elle met l'accent sur ce qui fait précisément l'intérêt de l'histoire de l'art par rapport à l'histoire des événementiels ou même une micro-histoire qui s'intéressera à des points extrêmement détaillés de tel ou tel moment du développement historique. C'est quelque chose qui marque la singularité de ce que va être ultérieurement l'histoire de l'art. Il n'a pas du tout conscience de faire une histoire de l'art, ou pas du tout l'ambition de faire une histoire de l'art, mais cette façon de poser les objets devant lui et de ne pas penser aux limites historiques qui les séparent est une manière de privilégier l'expérience du regard. Alors, de ce texte des commentaires de Ghiberti, on ne connaît en fait qu'une seule version, et qui elle-même n'est pas la version originale, qui est une copie, conservée à la Bibliothèque nationale de Florence. Et ces commentaires sont le résultat d'une très longue période de gestation, prise de notes, notes, bien sûr, prises dans les ateliers, comme je l'ai dit, mais aussi à partir de réflexions personnelles, durant une quinzaine d'années. Donc on voit ici se déployer, dans cette réflexion, à la fois une sensibilité d'artiste et une grande indépendance vis-à-vis de l'histoire, une sorte d'émancipation vis-à-vis des grands cadres historiques. Alors, comment se présentent ces parties qui composent les commentaires de Guy Berti ? Eh bien, il y a trois livres. Le premier concerne l'art ancien, grec et romain, qui est, à ses yeux, le prototype de l'art par excellence. Et on va voir comment il instrumentalise les sources antiques pour ses propres théories sur l'art. Dans un deuxième livre, il cherche à clarifier sa position par rapport à l'art qui lui est immédiatement antérieur, donc l'art encore du XIVe siècle. Il écrit en quelque sorte, et ça c'est aussi nouveau, une histoire de ses propres antécédents artistiques. Et dans la troisième partie, il expose sa théorie de l'art. Et Guy Berti ne parle pas d'artiste contemporain. Le seul artiste dont il parle, c'est lui-même. C'est le seul artiste vivant dont il parle. Et c'est là aussi quelque chose de très intéressant. Si vous vous rappelez ce que je vous avais dit à propos du modèle des biographies de troubadours, qui, eux aussi, souvent, racontaient les quelques grandes figures des troubadours, des chansonniers, en terminant leur récit biographique par eux-mêmes, se situant en quelque sorte dans la perspective historique qu'ils sont en train de déployer. Non seulement Guy Berti ne parle que de lui parmi les artistes vivants, mais il ne dépasse pas dans le panorama artistique qu'il propose, il ne dépasse pas les frontières de la Toscane, sauf pour deux artistes, le Romain Cavallini et un sculpteur de Cologne dont il nous parle, qui a été actif à Naples et qui s'appelle Gusmin. Mais le fait même qu'un Florentin comme lui parle des vies essentiellement des peintres toscans, c'est l'amorce d'une longue tradition historiographique qui va se poursuivre avec Vasari, puis Baldinucci et Lanzi au début, à l'entrée du XIXe siècle, qui écriront également des vies d'artistes et qui sont également des Florentins. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.